Chers amis, donc nous allons commencer. Donc ce soir, notre ami, qui est un habitué des Martyrs, mais plutôt comme auditeur, donc Jean-Claude Hureaux, c'est lui qui fait la conférence ce soir. Donc son intitulé, c'est Théodore Monod et l'écologie, donc le contenu de la conférence. C'était un petit peu d'ailleurs notre souhait, malheureusement, bon, la fois dernière, la personne qui devait venir n'a pas pu venir, notre souhait de donner un sens, disons, scientifique, ce qui est quand même l'origine quand même de ce mot et de cette discipline, donc un sens scientifique au mot écologie. Alors Théodore Monod, Jean-Claude, évidemment, l'a bien connu, il a été un ami pour lui, mais c'est aussi un collègue. Et donc, je viens d'apprendre qu'il vaut mieux dire ichtyologiste qu'ichtyologue, ce qui ne veut pas dire spécialiste du christianisme des temps anciens, mais spécialiste des poissons, qui était un point commun donc, entre Jean-Claude et Théodore Monod, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Donc voilà, je lui laisse la parole et on est très heureux de l'écouter ce soir.
Merci. Bonsoir à tous. Oui, j'ai eu la chance, je dois dire c'est une chance, hein, de travailler avec Théodore Monod. Vous m'entendez bien, au fond?
Oui. Le mieux, c'est de te rapprocher.
Non, ça va aller. Bon. Donc, j'ai eu la chance, c'est vraiment une très grande chance, hein, de travailler avec lui pendant une trentaine d'années, de 1979 jusqu'à 69 jusqu'en 1999. Bon, nous avons publié beaucoup de choses ensemble, des articles et des ouvrages scientifiques, mais lui a été non seulement un ami, mais un collègue, et c'est lui qui m'a fait nommer professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, donc l'écologie. Je vais tout de suite vous donner la définition de l'écologie telle que Théodore Monod, vous m'excuserez, mais de temps en temps je dirais Théodore au lieu de Théodore Monod, donc la définition que Théodore Monod écrivait en 1976 dans Ouest France. Il a beaucoup publié dans Ouest France. Il y a des mots à la mode qui font recette et dont il faut par conséquent se méfier. Cette pauvre écologie, à quelle sauce on nous oblige à l'avaler tous les jours. Au vrai sens du mot, il s'agit d'une discipline scientifique bien définie, étudiant les relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, tant physique que biologique. Voilà la définition de l'écologie telle que Théodore Monod l'avait écrite. Et pour Théodore Monod, les hommes sont inclus parmi les êtres vivants dont il parlait. Alors, un point d'information avant d'aborder le fond de cet exposé. De 1915... à 2004, ça peut vous surprendre peut-être 2004, mais il y a eu des écrits posthumes. Donc de 1915, il avait 13 ans, à 2004, soit pendant 90 ans, 2167 écrits ou publications portent sa signature. 110 d'entre elles concernent la protection de la nature, 92 la lutte pour la vie et la protection des animaux, 83 témoigne de sa lutte pour la paix contre la violence et le nucléaire, et 84 sont des publications dans lesquelles il exprime pleinement son humanisme. Les autres publications, il y en a encore quelques milliers, centaines en tout cas, sont des publications essentiellement scientifiques. Alors, je vais reprendre les trois points essentiels de ces thèmes, Théodore Monod, protecteur de la nature. Sa vocation scientifique fut précoce. À l'âge de 14 ans, il rédigeait sa première relation zoologique et biologique, cette qui était une description rigoureuse des insectes et des fleurs découverts à quatre pattes dans les buissons du Midi à l'occasion d'un voyage familial. Mon exposé, il y aura beaucoup de citations des écrits de Théodore Monod. Et la plupart de ces citations sont extraites de trois livres que je considère comme fondamentaux. L'un qui s'intitule « Et si l'aventure humaine devait échouer ?» L'autre, « Le chercheur d'absolu ?» Et le troisième, « Les carnets de Théodore Monod » qu'on trouve en format de poche, carnet de Théodore Monod rassemblé par son fils Cyril, le frère d'Ambroise. Donc à 15 ans, Théodore Monod crée sa propre société d'histoire naturelle et il édite déjà un bulletin à 15 ans, le Martin Pêcheur. Alors lui-même dit qu'il était tout à la fois rédacteur, imprimeur, directeur, secrétaire et écrivain, relieur, livreur, comme il le disait lui-même. Et il y consignait des monographies d'oiseaux ou de poissons, des relations de voyage ou l'étude des astres observés depuis la fenêtre de sa salle de bain. Sans encore prononcer le mot « écologie », il créait déjà, en fait, une société de protection de la nature. Et dans ce bulletin, il y fustigeait les exploiteurs de la nature, comme il le fera toute sa vie, et prenait déjà position contre le sacrifice des oiseaux pour le seul plaisir des hommes et des femmes, ajoute-t-il, et de leurs chapeaux. À l'époque, on utilisait les plumes des oiseaux pour orner les chapeaux de ces dames. À l'instar de son père, le pasteur Wilfred Monod, comme ses grands-pères ou arrière-grands-pères, Théodore compte dans son ascendance pas moins de 5 pasteurs en ligne directe du côté paternel et 4 du côté maternel. Il a toujours dit qu'il était un mono pur, un mono spécifique, puisque que ce soit du côté de son père ou du côté de sa mère, tous ses ancêtres s'appelaient Monod. Donc, à l'instar de son père et de ses aïeux, il aurait pu se tourner vers la théologie. Il l'avait envisagé, mais il a finalement préféré inventorier les richesses de la création et témoigner de leur beauté. Avec humour, il disait, en parlant de la création, je le cite, « À l'intérieur de ce foutoir, les choses sont parfaitement en place. On a le sentiment de l'unité des choses et des êtres. On ne peut qu'être émerveillé devant la vie, devant la diversité, l'ingéniosité de la vie, et l'on cherche une explication. » Il a consacré sa vie entière à enrichir la connaissance que nous avons du vivant dans des domaines extrêmement variés, zoologie, botanique, géologie, histoire des sciences, écologie et protection de la nature. Car ne nous trompons pas d'approche, Théodore Monod ne fut pas un aventurier en quête d'émotions fortes, mais un chercheur. Au sein du monde scientifique, il s'est distingué par ses capacités à allier l'exploration et le travail sur le terrain. Il classait les naturalistes, d'ailleurs, en 3 catégories, et lui-même appartenait à l'une de ces catégories. Il se définissait comme un constatateur. C'est des mots qu'il a plus ou moins créé, un constatateur, c'est-à-dire comme un naturaliste qui se consacre au patient inventaire du monde, du cosmos, à l'inlassable accumulation des matériaux nécessaires à une description du monde, à l'observation en plein air ou en plein eau, des organismes et de leurs groupements, à la biogéographie des organismes, la biogéographie, c'est-à-dire la distribution géographique des organismes, et aux relations qu'ils ont avec leur milieu vivant ou inerte. La deuxième catégorie de biologistes, ce sont les expérimentateurs qui veulent expliquer le fonctionnement des organismes et les relations inter-organismes. Ces deux premières catégories, constatateurs et expérimentateurs, sont complétées par les applicateurs qui cherchent la solution des problèmes pratiques que pose à l'homme l'utilisation des ressources naturelles. Pour Théodore Monod, je le cite à nouveau, il faut agir utilement, comprendre. Et pour comprendre, il faut connaître, ce qui exige un énorme effort de recherche, une systématique accumulation de faits, une totalisation patiente des documents sous les formes les plus variées. Alors évidemment, cela implique des institutions, des organismes spécialisés et bien dotés financièrement et humainement. Et c'est pour cela qu'en 1938, un institut français qui depuis est devenu fondamental d'Afrique noire, l'IFAN, a été créé, sorte d'image réduite du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. L'IFAN, qui veut servir non seulement la science en tant que telle et pour elle-même, mais l'Afrique et l'homme africain. À l'IFAN, Théodore Monod avait réussi à regrouper pratiquement toutes les disciplines naturalistes, y compris les sciences humaines. Alors l'IFAN était implanté à Dakar. Déjà en 1939, il écrit un article sur la protection de la nature dans le journal de l'IFAN, Les Notes africaines. Et dès 1941, il écrit un autre article intitulé « L'action de l'homme sur le climat ». Alors je ne sais pas si l'action de l'homme sur le climat, ça vous dit quelque chose, mais c'est en gros 60 ans avant que les experts du GIEC, c'est-à-dire le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et que leurs détracteurs, vous en connaissez un célèbre, détracteur, ne se lance dans une polémique souvent stérile. Et à propos de l'action de l'homme sur le climat, je vous recommande vivement de lire ce petit livre qui vient de sortir, écrit par Claude Lorius, un glaciologue bien connu. Le voyage dans l'Anthropocène, Anthropocène, cette nouvelle ère dont nous sommes les héros. Bon nombre de scientifiques, comme Théodore Monod, n'ont pas attendu la création de partis écologiques pour s'intéresser et se préoccuper de la sauvegarde de l'environnement. Plus tard, Théodore Monod œuvrera pour la création de réserves naturelles. Par exemple, il a été l'un des promoteurs de la grande réserve du mont Nimba en Côte d'Ivoire. Le mont Nimba est le point culminant de l'Afrique de l'Ouest, 1752 mètres. Il a participé à la création de grands parcs nationaux, tels que le parc de la Vanoise en Savoie, créé en juillet 1963, ou celui du banc d'Arguin en Mauritanie, à quelques distance au sud de Nouadhibou, Nouadhibou anciennement Port-Étienne, qui a été créé, ce parc national du banc d'Arguin, en 1976. Et nombreuses ont été les interventions de Théodore Monod dans le cadre de l'Union internationale pour la protection de la nature, ou bien dans le cadre des conférences internationales des africanistes de l'Ouest, organisation qu'il a contribué lui-même à créer et qu'il a présidé dès 1945. Alors, bien avant Nicolas Hulot et le développement durable, allant en cela bien au-delà des seuls aspects écologiques, même s'il les inclut, ce grand défenseur de la nature qu'est Théodore Monod a tiré la sonnette d'alarme et s'est mobilisé sur tous les fronts touchant à la protection, à la conservation, à la mise en valeur de la nature. Il a défendu sans relâche les valeurs de conscience et de responsabilité de l'homme face à ses semblables, face à la nature, face au vivant. Et il a pris position pour le respect des droits de l'homme et des animaux. En 1970, dans le journal La Croix, il écrivait ceci. On assiste depuis un certain temps au développement considérable d'un mouvement d'ensemble en faveur de la nature, des équilibres biologiques, des animaux sauvages, et il ajoute entre parenthèses, sauvages, on devrait dire libres, du respect dû à la vie, à l'arbre, à l'oiseau, etc. Et dénonçant corrélativement toutes les agressions, tous les mésusages, toutes les stupidités et toutes les violences dont un homme, pourtant soi-disant sapiens, se rend chaque jour coupable à l'endroit de son environnement, comme on dit, environnement, comme on dit en utilisant le mot anglais, sans doute parce que le synonyme français, dit Théodore Monod, le synonyme français milieu, tend à se spécialiser dans un sens moins honorable. Tout en dénonçant toutes les formes d'anthropocentrisme, Théodore Monod a toujours défendu et incarné une haute vision de l'homme. Humaniste, antimilitariste, pacifiste, il a lutté pour un monde plus juste, plus harmonieux, respectueux de la nature. Il écrivait ceci, « La forêt, la mangrove, la savane sont des formations naturelles qui font partie du vêtement de la planète, et les destructions inconsidérées, les atteintes à ces vêtements, peuvent avoir des conséquences que nous ne savons pas prévoir. Alors tout ce processus d'agression qui se développe magnifiquement actuellement vis-à-vis des écosystèmes et de la vie sur la Terre, ce saccage de la planète est une très grande imprudence. Non seulement c'est un méfait au point de vue éthique, mais c'est une très grande imprudence parce que nous ne connaissons pas les incidences à long terme des erreurs ou des bêtises que nous commettons actuellement. Théodore Monod condamnait donc sévèrement les agissements de l'homme dont l'orgueil est tel qu'il se permet tout sans penser à la nature, à la flore comme à la faune, qu'il détruit pourvu que cela lui rapporte. Théodore Monod affirme que la seule religion de l'homme est l'argent qui lui permet d'acquérir de nombreux biens matériels, souvent inutiles, qui le rendent totalement dépendant. Et il dit ceci, bien sûr qu'il faut respecter la nature, mais actuellement encore, on continue à la ravager. Ce ne sont pas les bonnes intentions des grands pollueurs qui manquent. On vit dans une société fondée sur le profit, sur l'argent, c'est ça qui compte. On vous permettra n'importe quoi à condition que cela vous rapporte. La morale, ça n'existe pas. Et cela l'attristait beaucoup. Toujours à la pointe des combats de civilisation, il dénonçait le pillage insensé de la planète. Cette nature qui est en fait un capital précieux, légué par le passé et dont nous demeurons comptables vis-à-vis de l'avenir, a été regardée jusqu'ici de façon générale comme une proie à saccager, tout ce qui peut rapporter étant permis. Parmi les rêves importants de l'homme, de la vie humaine, se trouve la préservation de toutes les sources d'émerveillement et de jouissance pure, telles que de beaux paysages, des animaux sauvages en liberté, ou une nature intacte à côté de la paix et de l'harmonie intérieure. Dans le monde moderne, Théodore Monod estime que le concept d'utilité doit faire place au concept général de valeur, non seulement de valeur au point de vue utilisation, mais aussi de valeur psychologique, de valeur sociale, de valeur scientifique et de valeur d'agrément. Dès 1962, il se montre particulièrement lucide lorsqu'il prévoit au sein du monde du mouvement en faveur de la nature un courant qui n'accepte que les aspects matériellement profitables de la conservation de la nature, au risque certain de négliger les autres. Je le cite. « Et à la réflexion, cette nécessité d'un dépassement de la technique et du rentable n'est-elle pas assez évidente ? Je n'ignore pas que sous certains aspects, au moins, la protection de la nature peut et doit apparaître non seulement comme un devoir de principe, mais comme une bonne affaire, et que c'est à ce titre-là, par exemple, qu'elle trouvera grâce. » Alors, citons à nouveau Théodore Monod, cette fois-ci dans un autre journal, en 1970, dans le journal La Croix. Il écrit « On dénoncera, et c'est très bien, car on ne le fera jamais trop, ce triste cortège d'erreurs et de crimes qui, jusqu'ici du moins, a accompagné l'activité humaine. Façon culturelle aberrante, déboisement inconsidéré, usage abusif des pesticides, pollution de toutes sortes, des sols, des eaux et ou de l'air, parmi lesquels on oublie volontiers les méfaits d'un tabagisme pernicieux, mais lucratif pour l'État. » C'est Théodore Monod qui écrit ça. Destruction de plus en plus difficile des rebuts d'une civilisation des déchets, massacre scandaleux d'animaux, dont nombre d'espèces sont aujourd'hui menacées d'extermination après toutes celles que notre cruelle sottise a déjà exterminées. Vous voyez que tout cela, ce sont des thèmes, pollution entre autres, des sols, des eaux, de l'air, etc., qui reviennent encore maintenant et qui sont de plus en plus à la page. Théodore Monod poursuit son combat. Les protestations contre toute atteinte à la liberté et aux droits sont régulières au cours de toutes ces années, dans toute publication, des plus scientifiques aux plus habituels comme les journaux. Dans Ouest-France notamment, où il a beaucoup écrit, paraissent nombre de ses articles touchant à tous les sujets de société. Pollution, protection de la nature, érotisme, drogue. Son ton parfois virulent lui fera, à la demande des journalistes, de temps à autre, revoir ses feuillets, voire les réécrire. Plusieurs fois, il prend position contre le Paris-Dakar. Je ne sais pas si Ambroise est ici. Il n'est pas là. Sans ça, je lui aurais laissé la parole après pour vous donner une petite anecdote à propos du Paris-Dakar. Il prend donc position contre le Paris-Dakar. En effet, le Sahara, comme tous les déserts, est un milieu très spécial, tout comme les déserts polaires, la haute montagne ou les forêts denses. Je le cite. « Le Paris-Dakar est une entreprise orgueilleuse et arrogante qui traverse un pays où les gens sont pauvres et ce gaspillage incroyable de combustible, par exemple, me semble tout à fait regrettable. Je crois que le Sahara et le désert sont un domaine assez beau, assez propre, assez pur pour mériter de se voir respecté. Respecter, c'est très important, ça. Le désert est l'un des milieux les plus autonomes qu'on puisse imaginer, car le phénomène d'aridité y est très spécial. Alors, si on va au désert, il faut le respecter. Il faut en respecter l'habitant, les animaux, et en écouter les leçons. Les leçons qui se résument dans une très grande simplification de la vie. Donc, là, je vous ai parlé de Théodore Monod, protecteur de la nature. Évidemment que tout cela s'est accompagné de très nombreux combats. Le principal, à ses yeux, était le combat pour le respect de la vie. Théodore Monod était une des références morales du siècle qui vient de s'achever. Peut-être le dernier que les médias voulaient bien, même si ce fut parfois avec parcimonie, laisser parler et diffuser son message. Il était de la race des Schweitzer, Gandhi, Mère Teresa et une poignée d'autres. Des hommes et des femmes qui ont compris ce qu'est l'honneur de l'humanité. L'honneur d'appartenir à une espèce dotée d'intelligence et de raison, et qui, de ce fait, se savent responsables de leurs actes envers les autres, y compris envers les autres espèces, et plus généralement envers la planète sur laquelle nous vivons tous ensemble. Marcheur infatigable dans le désert, Théodore Monod a été aussi le porteur infatigable de ce message, prêchant d'exemple et sans jamais dévier du chemin qu'il s'était tracé. Théodore Monod a montré qu'à force de volonté, on pouvait assumer sans compromission sa responsabilité de scientifique au service du public. Son objectif a toujours été le respect de la vie. Il n'a jamais laissé sa recherche et son savoir se dévoyer au point de mépriser la vie et d'en faire un simple objet de profit. Mais au contraire, sa recherche était au service de toute vie. La connaissance et l'amour de la nature ont fait de Théodore un écologiste de la première heure. Militant antinucléaire, antimilitariste, défenseur des droits de l'homme et des animaux, Théodore Monod combat sur tous les fronts pour le respect de toute forme de vie, pour la non-violence et pour la paix. Là se rejoignent en lui le croyant fidèle aux enseignements du Christ et l'homme de gauche, luttant pour un progrès social et pour un monde plus juste. On retrouve chez lui les mêmes préoccupations que celles qui animaient son père, membre influent du christianisme social, que l'on peut résumer en un mot, solidarité entre tous les êtres vivants, y compris les hommes. On retrouve aussi ce respect de la vie qui animait Albert Schweitzer. Il faudrait que l'homme, alors ça c'est une citation d'Albert Schweitzer, il faudrait que l'homme accepte de se réconcilier avec la nature. Il faut quand même finir par comprendre que tout se tient, que nous sommes dans un seul cosmos et que nous ne sommes pas seuls, qu'il y ait une réconciliation entre les êtres vivants. Théodore connaissait Albert Schweitzer et son œuvre de Lambaréné. Il s'émeut au souvenir de la révélation qu'avait eue Schweitzer en septembre 1915 dans une embarcation sur l'Ogoumé. Précisément, cette révélation du respect de la vie. Lors d'une conférence que Théodore Monod donne en 1966 à l'Union des croyants et dans son livre « Et si l'aventure humaine devait échouer », il cite et adopte ce texte d'Albert Schweitzer. Quelque chose d'imprévu me frappa comme une lumineuse évidence jamais encore formulée, respect de la vie. Enfin, j'avais tracé le chemin qui mène à cette idée qui englobe à la fois les mondes, l'affirmation de la vie, la morale. Je savais maintenant que la perspective universelle sur le monde éthique est fondée sur la pensée. Ainsi, pour moi, l'éthique n'est pas autre chose que le respect de la vie. Théodore Monod a eu l'occasion de rencontrer Albert Schweitzer à Dakar lorsque Schweitzer retournait à Lambaréné. Et le directeur de l'IFAN, donc Théodore Monod, avouera une convergence d'idées avec le médecin, prédicateur et musicien que tous vous connaissez. Il retrouve en lui toujours cette même alchimie faite de foi et d'action, faite aussi de courage et parfois de ténacité. D'autres réflexions encore rapprochent les deux protestants, sur la civilisation notamment, qui, pour le docteur Schweitzer, est la résultante du progrès matériel contre le spirituel. Civilisation qui ne devrait être orientée que vers la dignité de l'homme et toujours le respect de la vie. Civilisation où doit être évité l'asservissement de l'homme qui lui-même s'efforce de rester libre et indépendant en perdant son indifférence. Un deuxième combat de Théodore Monod a été celui pour la protection des animaux. Il s'indigne du massacre des animaux, êtres vivants sensibles, qui ressentent la souffrance et la douleur au travers de deux exemples qu'il donne, celui de la chasse et celui de la corrida. Il en donne d'autres exemples, mais j'ai choisi ces deux-là. Au travers de la chasse, qui en Europe n'est plus qu'une distraction, un loisir, et certainement pas une nécessité pour survivre, comme ce fut le cas pour les hommes préhistoriques, et la corrida, qui est un spectacle d'horreur affligeant. Alors Théodore Monod répond aux défenseurs de la chasse, qui prétendent que c'est une chose traditionnelle, que, je le cite, « bien sûr c'est traditionnel, mais ce n'est pas parce qu'une chose est ancienne qu'elle est bonne, la guerre aussi est ancienne, la torture est ancienne, l'esclavage est très très ancien, mais cela n'est pas plus recommandable pour cela. » Quant à la corrida, Théodore la qualifie d'abomination naturellement, bien qu'il y ait des poètes, des personnages littéraires qui s'extasient devant ces combats. À ce moment-là, Théodore a tendance à se révolter en citant un exemple. Un évêque de Nîmes prétend qu'assister au martyr d'un animal dans cet horrible spectacle de la boucherie des arènes est un facteur d'élévation spirituelle. Mais c'est incroyable, incroyable, dit Théodore Monod. Un être normal, peut-être intelligent, théoriquement chrétien, puisqu'il est évêque, dire de pareilles énormités. Ces deux aspects, chasse et corrida, prouvent que Théodore Monod refusait les actes de l'homme lorsqu'ils sont irréfléchis. Tuer par plaisir est inacceptable. L'homme ne doit tuer un animal que par nécessité vitale, jamais par jeu ou pour passer le temps. Et il s'exprimait ainsi dans une lettre qu'il a adressée aux eurodéputés en février 1990. Alors, longue est la liste des associations de défense de la nature dans lesquelles Théodore Monod était très actif et même souvent qu'il présidait. Je vais vous en citer un certain nombre. Société nationale de protection de la nature, Fondation internationale du banc d'Arguin, Fondation Nicolas Hulot, Alliance pour la suppression des corridas, Fédération des liaisons anti-corrida, les Amis de la Terre, Collectif contre l'enfouissement des déchets radioactifs, Greenpeace, Ligue française des droits de l'animal, la Maison de vigilance, Mouvement chrétien pour l'écologie et la protection animale, œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, le Rassemblement des opposants à la chasse, le réseau Sortir du nucléaire, la Société nationale pour la défense des animaux, la Fondation française des droits de l'animal, et il est peu probable que j'en oublie. J'espère que cette énumération de sociétés ne vous a pas lassé, mais les critiques se sont souvent abattues sur Théodore Monod et sur ses confrères. À cet égard, il l'accuse de se préoccuper. Ces critiques l'accusent de se préoccuper de la nature, de la faune, de la flore, mais pas des hommes. À ces critiques, Théodore Monod rétorque très justement que, je le cite, « Pourquoi s'intéresser aux animaux plus qu'aux hommes? La question n'est pas de savoir si c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ce n'est pas A ou B, c'est A et B. » Pour les gens qui nous font cette réflexion quotidienne, c'est probablement, en ce qui les concerne, ni A ni B, ni les hommes ni les animaux, je le crains profondément. Je crois qu'il était assez clairvoyant. Il a dénoncé la tyrannie que l'homme, roi de la création, exerce sur le reste du monde vivant. Et il a tenté de convaincre, enseignant une nouvelle éthique, et une nouvelle philosophie, celle de la réconciliation et de l'amour. Il faudrait enfin que les hommes acceptent de s'humaniser. Un troisième combat qu'il a mené pendant longtemps est celui, le combat contre toute violence et pour l'amour de la vie. Ça rejoint un petit peu le premier. Peu avant son retour définitif en France en 1965, Théodore Monod, retour définitif, il quittait Dakar pour venir à Paris prendre son poste, poste dont il assumait déjà la responsabilité depuis 1943 et pendant plus de 20 ans, il a assumé la direction de l'IFAN à Dakar et la direction de son laboratoire au muséum. Il passait en gros 6 mois à Paris, 6 mois à Dakar. Donc en 1965, Théodore Monod a lutté et conduit des manifestations pour défendre ses convictions. Alors, 1960 voit l'action de Théodore à l'époque de la guerre d'Algérie. Le 20 septembre 1960, de passage à Paris, il venait à son labo à Paris, il signe le manifeste des 121, les 121 qui seront bientôt 140. Tout le convainc de signer cette pétition, la guerre elle-même, l'appel à l'opinion que cela signifie, et son opposition farouche à la torture. Il rejoint là les idées de Louis Massignon. En quittant Dakar, 5 ans plus tard, Théodore Monod aura le plaisir de lui voir succéder Vincent Monteil, qui était un disciple de Louis Massignon. Le refus de toute violence de la part de Théodore Monod se reflète dans les nombreuses associations auxquelles il prenait part, souvent très activement. J'en recite encore quelques-unes que je n'ai pas citées tout à l'heure. Amnesty International, Anti-Slavery International, Citoyens du Monde, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, le Mouvement international de la réconciliation, l'Union pacifiste. Parmi toutes ces associations, il y en a beaucoup pour lesquelles... qu'il a présidé lui-même pendant un certain temps, ou en tout cas dans lesquels il prenait une part extrêmement active. Et la haine de la violence pour Théodore Monod rejoint celle d'Albert Schweitzer. Il s'agit en effet de révéler à la fois la fascination, la qualité, la crainte, le respect et l'amour devant la vie. Un dernier combat que je vais vous mentionner, c'est celui contre l'énergie nucléaire. Théodore Monod était très engagé dans la lutte pacifique contre l'énergie nucléaire. Dans le chapitre « Résister » du livre de son ouvrage « Le chercheur d'absolu », il nous fait part de sa volonté que les pays industrialisés renoncent à cette puissance dangereuse qu'ils ne maîtrisent pas entièrement et ses conséquences dévastatrices. Non pas seulement à cause des bombes atomiques, c'est pas tellement cela qui le chagrinait, mais à cause des fûts enfouis sous terre sans aucune certitude des conséquences à l'échelle de la vie de la planète, sans savoir si les mouvements géologiques de la planète ne pourront pas les ouvrir un jour au cours des siècles à venir. La destruction de la nature, la pollution des nappes phréatiques, aussi bien par la pollution que par le nucléaire, le scandalise. C'est la raison de son jeûne chaque année en mémoire des victimes d'Hiroshima et Nagasaki. Je le laisse parler en 1996, à l'âge de 94 ans. Chaque année, je participe à une manifestation silencieuse, dite d'interpellation, devant le poste atomique de Taverny. Du 6 au 9 août, je jeûne pendant 4 jours pour commémorer les morts d'Hiroshima et Nagasaki. Pour moi, 1996 est l'an 51 de l'ère nucléaire. Maintenant, ce serait 66 ans, ça serait l'an 66 de l'ère nucléaire, en 2011. Pour Théodore Monod, l'ère chrétienne s'est définitivement achevée le 6 août 1945. Il fit entendre clairement sa voix face aux diaboliques et inexplicables crimes d'Hiroshima et de Nagasaki, qu'il commémorait ainsi chaque année au mois d'août. Il disait, le 4 août 1948, nous avons quitté l'ère chrétienne pour rentrer dans l'ère atomique. Pour la première fois dans l'histoire, l'être humain a été atteint dans son devenir biologique et génétique. C'est dans les années 60-70 que commence la lutte que mène Théodore Monod contre les essais nucléaires. Juste un exemple, il s'est fait postier en juin 1966 en portant sur le dos un sac postal rempli de pétitions et de signatures jusque devant les portes de l'Élysée pour que la France renonce aux expériences atomiques et affecte les crédits de la force de frappe à la construction de logements, d'hôpitaux ou d'équipements collectifs prioritaires. Sans grand succès. En 1973, c'est une nouvelle manifestation contre un nouveau programme de réacteurs. Un an plus tard, le projet de surgénérateur Superphénix à Crest-Melville réunit tous les opposants à ce projet, dont Théodore Monod. Alors, il ne faut pas oublier quand même que Théodore Monod, je l'ai dit tout au début, est avant tout un scientifique. Tous ses travaux sont empreints de son souci de précision et comportent une foule de détails informatifs très précieux pour les historiens. Pour avoir collaboré et signé avec lui plusieurs ouvrages ou articles sur les poissons et avoir publié 2 biographies d'ichtyologistes des 18e et 19e siècles, je sais combien il était soucieux de l'absolue précision et de l'exactitude des détails à faire figurer dans une biographie. C'est ainsi que la recherche de la date de naissance de l'un d'entre eux, Antoine Rissot, ça ne vous dit rien, mais c'était un ichtyologiste qui travaillait à Nice. La recherche de sa date de naissance, qui était extrêmement variée selon les publications, nous a mené à explorer toutes les églises du Vieux-Nice, afin d'y retrouver l'acte de baptême de ce personnage bien connu des zoologistes. Finalement, on a trouvé. On a trouvé, dans une vieille église, le curé nous a dit « Ah, si vous cherchez quelque chose des années 1700 quelque chose, c'est peut-être dans l'armoire là-bas au fond de la chapelle. Je ne l'ai jamais ouverte, mais je sais qu'il y a des grands registres anciens. » On est tombé sur tous les registres de baptême qui avaient été célébrés dans cette église au XVIIIe siècle, avant que Nice ne passe sous l'emprise de la République française et ne redevienne ensuite dépendant de Naples. Bon, en tout cas, on a retrouvé donc la date de naissance que nous cherchions. Pas la date de baptême, mais il était clairement écrit. Nous avons baptisé ce jour l'enfant Antoine Rissot, né la veille. Donc, on avait la date de naissance. De même, on a établi une liste quasi exhaustive des publications d'un autre ichtyologiste niçois, lui aussi, mais qui avait la mauvaise habitude de publier toutes ces descriptions d'espèces dans des quotidiens ou dans des hebdomadaires. Alors évidemment que les bibliothèques les plus scientifiques ne possédaient pas cela. Or, à l'occasion de l'édition d'un ouvrage important que nous faisions ensemble, et en collaboration avec une cinquantaine de collègues étrangers, beaucoup nous disaient « Mais pouvez-vous nous donner la référence bibliographique exacte de Sarato, des travaux de César Honoré Sarato ?» Eh bien, nous avons réussi à dépouiller tous les quotidiens et hebdomadaires publiés à Nice à la fin du XIXe siècle et dispersés dans diverses bibliothèques, tant à Paris qu'à Nice, ou bibliothèque départementale du Var. Alors, tous les élèves, les disciples et les amis de Théodore Monod ont toujours été émerveillés par son extraordinaire mémoire qui faisait de lui, jusqu'à la fin de 1999, une véritable encyclopédie vivante. Par ailleurs, sa bonté, son humour, il en avait de l'humour, sa modestie et son humanisme ont fait de lui un modèle pour beaucoup de ceux qui l'ont côtoyé. Toujours accueillant, il savait écouter et il était toujours possible de lui demander un conseil scientifique, une référence bibliographique ou une voie de recherche nouvelle. C'était tellement précis que quand on lui demandait un renseignement, il nous disait « Allez donc voir dans tel livre, je dois l'avoir sur mon étagère, la troisième rangée à partir du bas, vers la page dans 140, vous trouverez ce que vous me demandez. » Au sein de l'Académie des sciences, aux séances de laquelle il a participé jusqu'en 1999, il était très écouté et admiré pour l'ampleur de ses connaissances et sa facilité à envisager les problèmes à l'échelle globale. Excellent pédagogue, il savait parfaitement bien présenter ses travaux en inculquant à ses auditeurs l'amour de ce qu'il décrivait. Il avait l'art d'enseigner les choses de façon vivante et très concrète. Toute l'aventure de la recherche scientifique sur les poissons, aventure que j'ai vécue à ses côtés en tant qu'ichtyologiste, reste l'un de mes meilleurs souvenirs. Et nombreux sont ceux qui pourraient en dire autant, que ce soit des botanistes, des géologues, des carcinologues, des géographes, ou tout simplement de fervents amateurs des déserts. Théodore Monod était en effet un naturaliste universel. Tous ses livres, destinés à un large public, reflètent son profond désir de faire connaître et aimer ce qu'il aimait, à savoir la faune marine, les déserts et son profond respect de la vie. En 1938, l'un de ses collaborateurs, Gilbert Vieillard, écrivait à sa mère à propos de Théodore Monod ce qui suit. Il est effroyablement calé, surtout en sciences naturelles. Au début, on le prendrait pour un dictionnaire ambulant, mais c'est un dictionnaire qui a compris son contenu. Il est beaucoup plus humain que son abord un peu froid ne le laisse deviner. C'est un fait que son abord était un peu froid quand quelqu'un qui ne le connaissait pas l'abordait, mais il écoutait toujours ce qu'on lui disait quand ça l'intéressait. Mais quand ça l'intéressait, il pouvait vous écouter pendant une heure ou deux facilement. Alors, Théodore Monod est non seulement un naturaliste hors norme, mais aussi un pacifiste et un humaniste dont la pensée mérite d'être connue. Elle peut nourrir la réflexion de tous, car Théodore fut un éveilleur des consciences. Pour faire découvrir son regard sur l'humain, je citerai une conférence trop peu connue que Théodore Monod prononça à l'Union des croyants le 28 mars 1966. Cette conférence s'intitulait « L'homme face à la nature, du pithécanthrope à Albert Schweitzer ». Il avait 64 ans lorsqu'il prononça cette conférence. Et pour Denis Escudier, qui est mon co-auteur de cet ouvrage, pour Denis Escudier, il s'agit là d'un texte fondateur de la pensée de Théodore Monod sur le thème de l'homme face à la nature, face au cosmos, des effets de l'action humaine sur la biosphère, thème qu'il ne cessera d'approfondir jusqu'à la fin de sa vie, plus de 30 ans durant. On trouve dans ce texte les éléments de réponse à quelques grandes questions. Alors, l'homme fait-il partie de la nature? C'était l'une des trois questions que j'ai ressorties de ce document, de cette conférence. L'homme fait-il partie de la nature ou occupe-t-il une situation extérieure à celle-ci? Animal dénaturé, en deux mots. L'homme, qui connaît l'angoisse de savoir qu'il ne sait pas, a été en quelque sorte arraché à la condition animale, il occupe donc une situation singulière dans la nature. La deuxième question concerne l'hominisation. Est-ce un fait acquis, une promesse ou une éventualité? Où en est le processus d'humanisation déclenché il y a somme toute pas si longtemps, 2,5 millions d'années? L'homme est tout jeune, il ne fait que paraître. Dans son environnement, son action prédatrice s'exerce sur trois fronts. Contre l'homme, son semblable, contre l'animal, contre la nature tout entière. Et Théodore Monod d'évoquer l'océan de notre barbarie dans des guerres fratricides de toute nature, de dénoncer la souffrance animale et l'extermination des espèces, de dresser un réquisitoire impitoyable, voire sarcastique, contre les méfaits commis par l'homme aux dépens de son environnement. Troisième question, quelle place occupe l'homme au sein de la biosphère et vis-à-vis de celle-ci? Dans quel état allons-nous remettre à nos descendants un héritage dont nous n'étions pourtant qu'usufruitiers et temporaires dépositaires ? Le ton change et Théodore Monod appelle à la réconciliation de l'homme avec son environnement. Il aurait préféré que je dise avec son milieu. Écouter et comprendre, préparer la paix, restaurer des paysages diversifiés, le chaos doit faire place aux harmonies, l'homme devenir enfin sapiens. Théodore Monod perçoit une raison d'espérer. Malgré les silences de nos inconsciences et de nos aveuglements, malgré ceux des philosophies, ceux des morales traditionnelles, malgré ceux des religions, l'esprit, Dieu merci, continue à souffler où il veut, et jusqu'au fond de l'Afrique soudanaise au besoin. Alors, pour conclure, je dirais simplement que Théodore Monod, zoologiste marin de formation, mais avant tout spécialiste de crustacés et de poissons, il était devenu un naturaliste complet, aux connaissances universelles, spécialiste des déserts. Il était non seulement zoologiste, mais aussi botaniste, géologue, érémologue, paléontologue. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'érémologie pour me le demander, paléontologue, préhistorien, historien, protecteur de la nature, et il a combattu toute sa vie pour la défense des libertés. Son profond respect de la vie, ses luttes pour la conservation de la nature, son estime pour ses amis musulmans, son profond désir de voir l'homme enfin s'humaniser, sont des messages actuels et d'avenir que nous souhaitons voir transmis à la jeunesse. C'est pour que ces messages d'espoir dans l'avenir restent dans la mémoire des jeunes de tous les pays que les amis de Théodore Monod tentent de faire vivre sa mémoire. Pour le grand public, Théodore Monod reste et restera le scientifique qui arpentait encore le Sahara et plus particulièrement son diocèse, l'Adrar de Mauritanie, à l'âge de 97 ans. Mais pour ses amis et collègues scientifiques, il restera le naturaliste aux connaissances universelles, doué d'une intelligence hors du commun, compétent et devenu spécialiste non seulement dans ses disciplines d'origine, la zoologie, crustacés et poissons, mais dans toutes les disciplines les plus complexes des sciences de la vie et de l'univers. Et il restera le symbole du véritable naturaliste écologiste. Les naturalistes, au sens où on peut dire que Théodore Monod était un naturaliste, pratiquement il n'y en a plus actuellement. Chacun s'est spécialisé dans une discipline très étroite, alors que Théodore Monod avait une vue d'ensemble sur toutes les disciplines naturalistes. Merci. Alors, l'érémologie, je peux peut-être tout de suite vous dire ce que c'est. Ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement l'étude des sables, des grains de sable.
Comment ça s'écrit ?
Érémologie, comme ça se prononce. Sans H. Comment ? Ah oui, celui que je n'ai pas cité tout à l'heure. C'est Claude Allègre, voilà.
Voilà, ben écoutez, merci beaucoup pour ce tableau, lui-même assez général.